Bonjour à tous.
Alors moi aussi, je vais vous faire bouger ce matin. Je trouve intéressant qu'il a adressé ce message, Jean-Claude, aux enfants, car ce matin, tout le monde va en prendre pour son grade. De manière positive, évidemment. Moi, je vais lire dans Tite, chapitre 2. Ce qui est intéressant dans cet épître de Tite, c'est que on voit toute l'Église. Le premier chapitre, ça concerne le choix des anciens, en gros les responsables de l'Église. Le chapitre 2 va parler justement des personnes dans l'Église, et le chapitre 3 est un prolongement, notamment pour tout ce qui est la doctrine. Et là, on arrive dans le chapitre 2. Moi, je prends sans fil car j'aime bien bouger. Tite chapitre 2. Alors, Tite, Philémon, Hébreu, Jacques, Pierre. Ça peut vous aider à trouver. C'est une épître assez courte. Donc, plutôt vers la fin, milieu-fin du Nouveau Testament. C'est Paul qui parle à Tite. Tite, un petit jeune. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisante, ni adonnée au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Prions. Le Seigneur, merci pour ta parole qui nous enseigne, qui nous exhorte, qui nous édifie. Et que cette parole soit encore un sujet de joie ce matin, une occasion encore pour nous remettre en cause, une occasion encore pour avancer avec toi. Travailler notre piété, notre attachement à toi, Seigneur. Et que, cette semaine, nous puissions y revenir, réfléchir, méditer, et qu'elle puisse porter du fruit en nous. Et qu'elle change notre cœur, pour que cela ait un impact sur l'extérieur, Seigneur. Change les cœurs encore ce matin. Amen. On peut voir dans ce texte qu'il y a trois groupe de personnes. Le mot qu'on désigne par vieillard, le mot qu'on désigne par femmes âgées, et puis les jeunes. Alors, je vais vous faire bouger. Par catégorie de personnes. Alors, comme on a déjà fait bouger les enfants, vous allez rester au fond, d'accord? On va essayer de pas faire bouger nos anciennes. Donc, vous allez rester là. Donc, ici, on va mettre, allez, les femmes. Alors, oubliez les âges que je vais dire, hein, c'est grosso modo. À partir, allez, de 55 ans. 58? Allez, parce que dans la Bible, on était âgé plus tôt, on mourait plus tôt, hein, l'espérance de vie n'était pas la même qu'aujourd'hui. Donc on va dire, à partir de 55 ans, vous allez vous mettre par là, d'accord? Les hommes, à partir de 55 ans, vous allez vous mettre ici, d'accord? Et les jeunes, vous allez vous mettre soit au fond, soit là, ok? Alors, ah non, 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 attendez, attendez, non, non, ce que je vais faire plutôt... Ok, donc là, les femmes âgées et les hommes, enfin âgés, à partir de 55 ans, hommes et femmes là, on va mettre ici les hommes et les femmes entre 30, allez, 30, 30, 35 ans jusqu'à 55 ans à peu près, et les plus jeunes et moins de 30 ans là-bas. Moins de 30 ans. Allez, on bouge un petit peu, ça fait bouger un peu le cerveau, le sang, ça réveille. Alors, mesdames, ne bougez pas, hein. Vous restez là. Alors, les femmes enceintes, j'ai pas trouvé encore. Les femmes ici, les hommes ici. 55 ans, 55 ans. On remarque que Madame Relly est beaucoup plus jeune que son mari. J'ai mis les... Bon, c'est... Mais ça vous donne un peu là une image de l'Église. Hein? C'est pas inintéressant. Et puis, oh, c'est la famille, hein. On est en famille. Pourquoi cela? Parce que quelque part, ce texte s'adresse à différents groupes. Donc, quand je parle des vieillards, je ne vais pas parler aux jeunes là-bas. Hein? Donc, c'est pour ça que c'était intéressant de faire comme ça. Il n'y a pas beaucoup de vieillards, hein? Entre guillemets, bien entendu. J'entends trop souvent dire, de la part, on va dire, des hommes ou femmes dits âgés, hein? Bien au-delà de 60, 70 ans, donc ce n'est pas toujours forcément votre cas, je ne suis plus bon à rien. Non? Vous avez jamais entendu ça? Enfin, vous avez jamais entendu ça? Non? Je suis trop vieux ou trop vieille pour faire quoi que ce soit dans l'église. Ou bien on peut dire des fois, place aux jeunes. Et pourtant, c'est pas ce que la Bible enseigne. Ici, on voit qu'il y a un rôle fondamental donné à ceux qui sont plus âgés. Vous avez une place, notamment les plus anciens, une place essentielle dans l'Église. Et votre exemple est primordial. Et l'Église nécessite l'investissement de chacun, les moins jeunes comme des plus jeunes. Il y a plusieurs générations dans l'Église, comme on peut le voir déjà, et c'est pas toujours facile de concilier tout ce beau monde. On parle souvent de conflits de génération. Alors d'un côté, on observe des personnes, on va dire d'un certain âge, des fois même qui s'accrochent au ministère et refusent de passer le flambeau à un plus jeune. Et d'un autre côté, on voit des jeunes, un peu là, mais surtout là-bas, qui veulent mettre les vieux à la porte, car pour eux, les vieux, ben, sont has-been, hein, ils ont rien compris, ils veulent tout faire péter. On va commencer par les vieillards d'abord. Bon, le mot que dit. Ah. Le mot, alors après. Il y a écrit les mots vieillards, hein, donc on ne peut pas aller à côté. Hein. Donc il dit, verset 2, on remarque qu'il y a un verset d'ailleurs pour les hommes. Hein. Et quelques versets. Heureusement que les femmes ne voient pas ce que. Il dit que les vieillards doivent être sobres. Honnête, saints dans la foi, dans la charité, c'est le mot amour, hein, le mot agapé qui est en grec, et dans la patience. Donc là, Paul décrit le caractère de nos vieillards. Du moins, le caractère vers lequel ils devraient tendre. N'est-ce pas, mes frères? Sobre, honnête, modéré, saint dans la foi, dans la charité et dans la patience. Belle liste. Ma tablette est morte le 25 décembre. Donc je suis revenu au papier. Comment ça amène? Non. Alors le problème n'est pas de rester forcément attaché à un ministère ou de tout plaquer. Mais plutôt accompagner la génération montante, ceux qui sont plus là-bas, et par extension là-bas, pour l'aider à prendre de plus en plus d'initiatives et être des sages, des conseillers. C'est pourquoi la sobriété, l'honnêteté, la modération, la foi, la charité et la patience sont des vertus essentielles dans cette tâche d'accompagnement. Ce n'est pas en frustrant ou en braquant les jeunes que vous parviendrez à les encourager. « T'es trop jeune, c'est rien faire, t'es pas capable de... » Non, j'ai jamais entendu, si, bien sûr. Jean-Claude, c'est un bon. Hein. Au contraire, il faut les encourager à prendre en charge un ministère. Leur confier un ministère sans les soutenir en leur disant « Ben, vas-y maintenant et débrouille-toi », c'est pas non plus la bonne solution. Au contraire, c'est leur confier le ministère tout en les rassurant, en les accompagnant. Et il faut prendre le risque de leur confier de grandes responsabilités, avec le droit d'échouer, tout en leur assurant de notre présence, qu'on est là pour soutenir. Et en travaillant dans la confiance, ils pourront développer à la fois leur caractère et leur ministère. Bloquer, c'est décourager. Lancer et lâcher, c'est assurer l'échec et l'abandon au bout de quelques temps. Donc même si vous n'êtes pas tout jeune, vous avez de la valeur. C'est ça le message qu'il faut communiquer. Même s'ils sont jeunes, ils ont de la valeur, ils ont quelque chose à faire et à développer. Vous avez de l'expérience, de la sagesse, alors ne gardez pas tout cela pour vous, mais mettez-la à profit pour les plus jeunes. Pour autant que vous soyez sobre, honnête, modéré, saint dans la foi, dans la charité, dans la patience. Donc il y a des conditions pour faire ce travail-là. Alors travaillez donc toutes ces valeurs et trouvez quel rôle pourriez-vous jouer dans ce transfert de compétences, dans l'encadrement des plus jeunes, pour les encourager et les accompagner. En un mot, on pourrait dire que vous devez inspirer les jeunes. Quand ils vous regardent, ils doivent avoir cette envie, je voudrais lui ressembler quelque part. Ou je voudrais qu'ils m'aident à développer, parce que je vois que je peux créer une relation de confiance avec eux. Mais c'est pas ce que vous vous dites, hein? Mais votre rôle ne concerne pas seulement le ministère, bien sûr. Il va bien au-delà, bien que plus explicite pour les femmes, c'est vrai. Je pense que les vieillards ont aussi un rôle de conseiller auprès des plus jeunes, que ce soit au niveau familial, au niveau du travail, ou autre. Et le partage d'expérience vaut aussi bien pour le ministère que pour tout le reste. Réfléchissez un instant. Pensez à 3 hommes plus jeunes dans l'église. Des hommes avec qui vous pourriez vous entendre et proposez-leur de vous engager à prier pour eux. Pour qu'ils soient des maris fidèles, aimants, de bons pères, qu'ils soient dans leur emploi, priez pour qu'ils soient de bons serviteurs de Dieu, etc. Engagez-vous à prier pour ces 3 hommes. Même s'il n'y en a qu'un, c'est pas grave. Et aussi engagez-vous à les rencontrer régulièrement. Et de passer du temps ensemble afin qu'ils partagent leur joie, leur fardeau et que vous puissiez les conseiller, prier ensemble. Et je suis sûr que cela les encouragerait et ça leur ferait du bien. C'est pas Jean-Claude? C'est une bonne idée? Si je dis bêtises, dimanche prochain, il réglera tout ça. Les femmes âgées, vous aussi, vous devez inspirer. Là, il y a trois versets pour un. Il y a plus de choses à dire. Hein. C'est pas moi qui ai écrit. Hein. Alors, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Alors ce discours, je me sens inutile, je l'entends bien souvent. Or, l'apôtre relève le rôle prépondérant des femmes âgées dans ce texte. Et tout comme pour les hommes, elles doivent inspirer les plus jeunes. La sainteté, ne pas être médisante, ni alcoolique, qu'elles sachent transmettre leur savoir, qu'elles soient de bonnes conseillères. Vous avez cumulé de l'expérience tout au long de votre vie, même de votre longue vie. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, cette expérience, eh bien, elle est là pour profiter aussi aux autres. Par exemple, quand on est jeune, une jeune femme, et qu'on vient d'avoir son premier enfant, la jeune mère a des tonnes de questions. Souvenez-vous, pour certaines, si vous avez eu un enfant, notamment le premier, quel était votre désarroi? Plein de questions. Moi, j'ai 4 enfants, hein, donc je me souviens du premier. Eh bien, trouver une personne d'expérience dans ces moments-là est un réel réconfort. Ce n'est qu'un exemple. Il y a tellement de situations similaires. Alors, comment concilier, souvent pour les femmes, le travail, la famille et l'église? Non, vous n'êtes jamais confronté à ça. Hein? Vous n'êtes jamais confronté à ça. Comment concilier votre vie de famille, votre travail et aussi votre ministère dans l'église? C'est pas toujours facile. Parce que souvent, on demande aux femmes de faire double travail. Et une frustration. Et souvent, les jeunes femmes peuvent rapidement se trouver submergées, désemparées face à certaines situations. Et bien là, votre réconfort, vos prières, vos conseils trouveront des oreilles attentives auprès des jeunes. Vous avez un rôle important dans l'Église. Et bien que Paul restreigne dans ce passage au niveau familial le rôle des jeunes femmes âgées, le rôle des femmes âgées, je pense qu'on peut étendre à l'accompagnement des femmes qui ont un ministère aussi. Je pense à toutes ces femmes de pasteurs, des femmes désemparées. Parce que dans bien des cas, le mari, bon, lui a suivi une formation de théologie, il est préparé, il est encadré par des pasteurs seniors et ainsi de suite. Tout va bien. Mettez-vous à la place de la femme de pasteur. Il n'y a pas de formation femme de pasteur. Hein. Ça n'existe pas encore. C'est quoi mon rôle? Quelles sont les attentes de ma famille? Les attentes de l'église. Ah, mais une femme de pasteur doit faire ci, doit faire ça. C'est sous-entendu, mais c'est jamais exprimé. Voilà, il y a tellement de questions que les femmes de pasteur, par exemple, se posent. Et le rôle d'accompagnement de ces jeunes femmes également est primordial. Non seulement elle a un grand ministère, qui bien souvent est caché, mais essentiel dans l'église. Mais comment le ministère de son mari peut-il se développer si son épouse ne va pas bien du tout? Si l'épouse du pasteur va mal, le ministère de mari en pâtit. Pensez à votre couple pastoral. Alors mesdames, ne négligez pas l'importance de votre rôle dans l'église. Vous préparez l'église de demain. Et l'épouse est le cœur de la famille. Ce n'est pas les enfants le cœur de la famille, c'est l'épouse. Tout gravite autour d'elle. C'est bien souvent l'épouse qui connaît le mieux le besoin des enfants, de son mari, etc. Et si l'épouse ne va pas bien, la famille ne va pas bien. Bon, ça, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail de répercussion du message avec des situations réelles, n'est-ce pas? Eh oui. Donc votre rôle est de soutenir ces épouses à tenir ferme. Et donc, par votre soutien d'une femme, vous soutenez des familles. Les familles de l'Église, vous les soutenez à tenir ferme. Et de votre ministère de soutien dépend l'équilibre familial de toute l'Église. Et vous le savez bien, dans nos pays occidentaux, on traverse une grave crise familiale. Alors ne perdons pas ce combat de la famille. L'Église est une famille de familles. Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas passer à côté de ce rôle qui est fondamental. Vous n'avez aucun ministère inutile dans l'Église. Votre rôle, l'équilibre de l'Église dépend de vous, mesdames, entre guillemets, d'un certain âge. C'est à vous de prendre les choses en main à ce niveau-là. Alors réfléchissez à quelle femme dans l'Église vous pourriez apporter votre soutien. Une femme de cette génération-là. Parce qu'ils vont le faire, eux, ils vont faire dans l'autre génération. Hein, faut savoir aussi, faut les faire bosser un peu. Pensez à 2-3 femmes dans l'Église. Engagez-vous à la soutenir dans la prière, à la rencontrer régulièrement pour prendre de ses nouvelles, à prier avec elle, discuter avec elle, invitez-la à partager ses joies, ses fardeaux. Mais pour cela, garantissez-lui la confidentialité. Sinon, on n'aurait pas la confiance, ça ne dira rien. Si c'est pour entendre les commérages à droite à gauche, je dis ça particulièrement aux femmes. C'est pas un stéréotype, hein, c'est une réalité. Et je vous garantis que si chacun de vous fait cela, hein, chaque jeune femme suivie par une femme plus âgée, que l'Église en portera bien mieux d'ici peu de temps. Je ne dirais pas que c'est une prophétie, hein, c'est juste un calcul scientifique. Non, c'est important. Non, c'est bon. Les jeunes. Alors, il y a des jeunes là et des jeunes là-bas. Verset 6 seulement. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Point. Voilà, tout est dit. J'ai pas anticipé juste à la fin de ma page. Alors je vais plutôt adresser là pendant un premier temps. Alors je sais que vous voulez tout péter, hein. Que vous avez de l'énergie, vous aimez le Seigneur. Mais là, l'apôtre Paul quand même appelle à la modération. Cool. Et puis en général, il faut jamais passer d'un extrême, donc des vieux qui sont lents, on n'avance pas, à l'autre extrême. Et on pète tout, là. Hein? Cool. Et souvent, l'idéal se trouve, en général, au milieu. D'un côté, l'Église ne peut pas rester dans l'immobilisme, comme le voudraient certains, peut-être. La parole de Dieu ne change pas, mais l'Église est vivante. Cependant, il faut respecter les étapes de croissance et ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Alors ce qu'il faut, c'est utiliser l'ardeur de la jeunesse pour avancer et utiliser la sagesse et l'expérience des plus anciens pour canaliser cette ardeur afin qu'elle produise une œuvre bonne et cohérente. Mais ce dont je suis persuadé, c'est que Dieu désire que nous travaillions ensemble. L'Église est tout le monde. Les jeunes et les moins jeunes. Mais il faut accepter sa place, son rôle, et ne pas l'outrepasser. Versets 11 à 15, il est dit, alors ce que j'ai dit tout à l'heure, par rapport aux autres, vous aussi, vous devez, une fois que vous êtes pris en charge par des plus âgés, prenez en charge encore des plus jeunes. Pensez à 2-3 personnes qui sont là, par exemple, avec qui vous pourriez prier, parler avec eux, partager leur fardeau, leur joie. Et en gros, comme ça, tout le monde suit quelqu'un et tout le monde est suivi par quelqu'un. Parce que le pasteur, bon Jean-Claude, je sais que c'est un Superman, mais quand même, il vieillit, hein. Il s'est endormi. Donc vous voyez, c'est pas toujours facile de suivre tout. On ne vous demande pas de faire un travail pastoral avec tout le monde. On demande juste de développer la communion fraternelle par ce moyen-là, de se rencontrer, comment ça va. T'as un problème, va voir Jean-Claude. Ça n'enlève pas le rôle du pasteur. Mais au moins, vous pouvez déjà aider à une certaine limite. Hein, c'est important. Que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise. En travaillant ainsi, on ne le fait pas pour rien. Il y a toujours un but et une cause. Ça, c'est, on parle de la grâce de Dieu. On parle de la source de salut. Et vous communiquez aussi un message quand vous accompagnez quelqu'un. Et ça va de là à là, qui va aller jusque là-bas. Mais la source, c'est Dieu. C'est Jésus. Jusqu'à quelle heure? Vous voulez être fun ce matin? Je vais peut-être gêner quelqu'un ce matin. Vous êtes évangélique, non? Ils amènent trop tôt. Hein. En général, quand je pose des questions, il ne faut jamais faire le malin. Donc là, il est bien question, c'est la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Vous comprenez ce qu'on vient de dire? Non? On va voir les jeunes. Si je vous disais, voilà, c'est important, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Claude, de communiquer l'évangile aux enfants là-bas. Mais si je vous disais, c'est quoi l'évangile? Qu'est-ce que vous communiquez? Allez, soyons fous. Qu'est-ce qui vient là devant moi et qui veut m'expliquer c'est quoi l'évangile? On va voir ceux qui font moins le malin là. Hein. Y a pas de piège, hein. Vous êtes évangéliques, hein, vous connaissez la Bible, hein, vous êtes des pros et tout. Hein. C'est quoi l'évangile? Attendez. On va faire un autre contexte. Hein. Moi je suis un petit jeune musulman, tu vois. Je connais pas la Bible. Alors je connais pas vos blablabla, vos vocabulaire, rien. Jeune musulman en plus, attention. Hein. Mais je suis pas extrémiste non plus. Hein. Qu'est-ce que vous me dites? Voilà, tu dis que Jésus... Oh, je suis allé trop vite là. Tu parles de Jésus, l'évangile, c'est quoi? Qu'est-ce que m'apporte l'évangile? La vie éternelle, ouais, c'est bien, c'est un tiers de l'évangile, c'est merveilleux. C'est rare, mais bon, t'es... Je parle... La parole de Dieu. Allez. Les jeunes, là-bas. Ce qu'on fait par... Non, je plaisante. C'est quoi l'évangile? La bonne nouvelle. Alors ça, c'est la traduction littérale. Donc c'est quoi la mauvaise nouvelle? Sauvé par grâce. Je comprends rien ce que tu dis, moi. C'est pas mal. J'en reviens sur le mot grâce. C'est quoi la grâce? Une faveur imméritée, tout à fait. C'est pas mal. Alors, ça c'est une conséquence. Alors, c'est quoi l'évangile? La bonne nouvelle, c'est quoi la bonne nouvelle? Le salut en Jésus-Christ, je comprends rien à ce que tu dis. Non, le but, comme on a peu de temps, hein, c'est juste de vous faire comprendre quelque chose. Je sais que vous connaissez là, c'est pas faux, hein, mais voilà. On vit quelque chose sans le comprendre et sans l'exprimer. Ça, c'est le moyen. Et encore, il n'y a pas tout. Deuxième tiers, le pardon des péchés. On y arrive, hein. Il manque un troisième truc. Mais c'est rare, hein. C'est la première fois que j'ai autant de réponses. Je vous rassure. C'est rare d'avoir des bonnes réponses, d'ailleurs. Donc on a le pardon des péchés, on a l'espérance de la vie éternelle, traduit en bon chrétien, et qu'est-ce qui manque ? Alors l'amour de Jésus, alors je dirais quand on parle de la foi, de l'espérance et de l'amour, ça correspond tout à fait à la partie amour, mais c'est quoi ? Donc le pardon des péchés, ça, quoi que j'ai fait, je suis pardonné. Donc mon passé est réglé. Je sais où je vais, la vie éternelle, l'espérance, qu'est-ce qui me manque ? J'ai le passé, j'ai le futur. Il manque le présent. Ouais, mais ça c'est pour le pardon des péchés. L'espérance, ouais. Alors, l'espérance de la vie éternelle, c'est le futur. Mais il manque le présent, c'est pour la vie d'aujourd'hui. Et Dieu nous donne une vie nouvelle, tout simplement. L'évangile, c'est passé, présent, avenir. C'est une bonne nouvelle pour mon passé. Voilà, pardon des péchés. C'est une bonne nouvelle pour aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je peux vivre en nouveauté de vie. Mais je sais ce qui se passe à l'arrivée aussi, l'espérance de la vie éternelle. Donc là, la bonne nouvelle est triple. Donc c'est Jésus qui est le personnage central, forcément, de cette bonne nouvelle. Mais concrètement, en bon français, quoi que j'ai fait... Et vous avez des gens qui plient sous le poids de la culpabilité. Eh bien, pour eux, ils font plein d'œuvres bonnes, ils vont au bout du monde, ils vont travailler au Resto du Cœur, parce qu'ils ont besoin de se racheter. Le pardon de Dieu est là. Et il enlève cette culpabilité. Pour d'autres, ils sont paumés. Et le suicide, souvent, est la seule issue. Eh bien, pour ces gens-là, il y a une bonne nouvelle. Encore, l'évangile est une bonne nouvelle, parce qu'aujourd'hui, Dieu te donne une nouvelle vie, qui a du sens. Et pour ceux qui sont en fin de vie, maladie, assez âgé, on peut avoir peur de la mort. Et bien là, l'évangile nous donne une espérance, la vie éternelle. Ça, c'est pas mal, si vous arrivez à répondre ça. Ok, bon, tu peux dire, ouais, c'est bien, mais qu'est-ce que je fais ? Comment être au bénéfice de cela ? Qu'est-ce que vous dites ? Trois choses là encore. Alors, première chose, la repentance. Si on demande pardon à Dieu pour nos péchés, hein, il est fidèle et juste pour... Amen. C'est bien, c'est votre Bible. Est-ce que ça suffit, ça ? Ça fait partie de la repentance. Allez, on met ça là-dedans. Première étape. Deuxième étape. T'es calviniste ou t'es arminien ? J'enlève le mot conversion. Parce qu'on ne sera pas tous d'accord de ce qu'on met derrière. Alors, croire ? Croire en quoi ? Alors, on ne croit pas que Jésus est Seigneur, on l'accepte. Et c'est là. Donc, on dit qu'il faut croire en Jésus. On dit l'accepter comme sauveur. D'accord ? C'est-à-dire quoi, ça ? C'est-à-dire quoi, j'ai accepté Jésus comme sauveur ? Moi, je comprends rien. Hein. Vous comprenez ce que ça veut dire, vous ? Moi, bon, j'espère, mais... Mettez-vous à la place de quelqu'un qui connaît rien. C'est-à-dire quoi, accepter Jésus comme sauveur ? Alors, c'est croire en qui il est. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même, hein, deuxième personne de la Trinité, qui s'incarne. Donc, c'est homme et Dieu à la fois. Donc, je crois que Jésus est Dieu et homme à la fois. Et croire en ce qu'il a fait. Son œuvre rédemptrice à la croix. Rédemptrice. C'est quand même compliqué, ça. C'est le rachat. Donc, croire qui il est et croire ce qu'il a fait. Donc ça, c'est accepter Christ comme sauveur. Je crois qu'il est ressuscité, évidemment. Et donc, troisième chose que la sœur a dite, accepter Christ comme Seigneur. Et ça, beaucoup de chrétiens ont du mal avec cela. Moi, ça m'arrive en rendez-vous dans mon bureau de dire, oh, t'as demandé à Dieu pardon pour tes péchés. Ouais, ouais, ouais. Tu crois en Jésus. Oui, oui, oui. Tu crois que... Et tu laisses Dieu... avoir accès à tous les domaines de ta vie ? Non. Les gens sont honnêtes. Mais si Dieu n'est pas votre Seigneur, si Jésus-Christ n'est pas votre Seigneur, vous ne pouvez pas être régénéré, naître de nouveau. Qui est-ce qui procure cette nouvelle naissance? C'est le Saint-Esprit qui vient habiter en vous. Mais il vient habiter en vous parce que vous l'autorisez à venir en vous. Tant qu'il n'est pas votre Seigneur, il ne viendra pas. Dieu n'impose rien à personne. Et beaucoup de chrétiens, enfin, qui se disent chrétiens, ont ce problème-là. Est-ce que Christ est le maître de toute ta vie? Est-ce qu'il a droit de regard dans tous les domaines de ta vie? Repentance, croire en Jésus et l'accepter comme Seigneur. Eh bien, si on fait cela, pardon des péchés, vie nouvelle, espérance. Tant qu'on ne fait pas ça, même si on l'esprit prononce ces mots, mais qu'on le vive, il n'y a pas de problème. Mais c'est là que c'est important. Donc l'évangile où on voulait communiquer cette bonne nouvelle de l'évangile, là, je ne sais pas quand je le présenterai. C'est à vous de trouver la méthode ou ce qui vous est propre pour arriver au même résultat. Parce qu'on peut faire les petites cordes, des dessins, plein de choses. Ça, c'est le support. Mais si vous ne connaissez pas l'essence même du message ou le moyen d'être l'évangile, qu'est-ce que vous allez communiquer? Alors peut-être qu'il faut vous entraîner, vous préparer au témoignage. Tout le monde n'est pas évangéliste, mais tout le monde est témoin. Donc pour revenir à notre message d'aujourd'hui, ce que vous communiquez à la génération précédente, c'est l'évangile. Parce que l'évangile est entier. Je suis pardonné. Aujourd'hui, je vis. Donc vous transmettez aussi un témoignage de vie. Vous vivez ce que vous croyez. Et vous partagez une espérance. Donc c'est primordial. C'est pas des bêtises, Jean-Claude. Pas encore. Donc vous les jeunes, pour terminer cette partie-là, avant d'arriver à cette conclusion, eh bien levez-vous. Bon, bah, c'est une figure de style. Levez-vous pour servir le Seigneur. Ça, c'est important. Quel ministère Dieu désire-t-il vous confier? Lancez-vous, prenez ce risque, mais écoutez les conseils de vos aînés. Et pas les mettre au rang de has-been ou tout ce qu'on veut. HS. Alors écoutez-les, ne les méprisez pas, ne méprisez pas leurs conseils, même s'ils ne sont pas parfaits. Je vous rassure, des fois ils sont balourds. C'est vrai. Ils peuvent se tromper des fois, mais ne les méprisez pas. C'est pas ce que la Bible enseigne. Honorez-les, au contraire. Et c'est en faisant que l'on apprend plus. Eux, ils ont fait avant vous. Alors profitez de leurs expériences, mais vous devez faire vos propres expériences aussi. Alors conclusion. J'ai venu dire en tête, mais je la dis plus tard, donc ça va. Vous croyez que Josué s'est lancé comme ça dans la direction du peuple? Non, Moïse l'a formé. Vous croyez que Élisée est devenu prophète comme ça? Non, il a accompagné Élie pendant des années. Vous croyez que les disciples de Jésus sont devenus les apôtres qui ont fondé l'église comme ça? Non, Jésus les a formés et accompagnés pendant près de 3 ans. Tite et Timothée ont été formés par Paul. Et ce travail est à 3 niveaux. On travaille sa connaissance, on apprend les choses. On travaille sa compétence, donc il faut se lancer pour faire des expériences et acquérir de la compétence. Mais le plus dur, c'est travailler quoi? Le caractère. Le caractère. C'est le plus dur à travailler, car c'est le cœur qu'on travaille là. Donc ils disent, oh ben, j'ai mon caractère, je ne changerai jamais. Il me semble qu'il y a un verset qui dit qu'on doit revêtir le caractère de Christ quelque part. Alors, Dieu nous donne une personnalité qui nous est propre. Certains sont des fonceurs. D'autres, au contraire, ont besoin de sécurité. Mais l'expression de ma personnalité est mon caractère. Donc, je peux l'exprimer de manière négative, avoir mauvais caractère. Mais aussi, je peux l'exprimer de manière positive. Donc, il faut travailler ma soumission à Dieu, travailler ma soumission aux autorités, travailler le cœur de Dieu. Ce qui est plus difficile, je vous rassure. Mais on est toujours en chemin. Donc, tant d'exemples dans la Bible où on voit cette relation de transmission, d'accompagnement, de développer le leadership des autres, le ministère des autres. Alors, n'attendez pas d'être vieux et parfait. Hein, n'attendez pas d'être vieux et parfait pour vous lancer dans un ministère. Les plus anciens, n'attendez pas que les jeunes soient devenus vieux et parfaits pour leur confier un ministère. Alors ne négligez pas votre rôle d'accompagnateur des plus jeunes. Prenez 3 jeunes en charge. Encouragez-les à en prendre 3 à leur tour. Principe de multiplication. Depuis qu'on voit, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, multipliez-vous. Je vous bénirai, je multiplierai ta postérité, et ainsi de suite. Faites des disciples. Principe de multiplication. Et la vie de l'Église et la croissance de l'Église en dépend. Vous avez tous quelque chose à apporter. Votre génération peut apporter à cette génération. Et même vous-même, ceux qui ont 25-30 ans, peuvent prendre des 14-16 ans en charge. Vous avez toujours quelque chose à apporter. Et souvent, les leaders jeunesse, on les prend dans les 25-30 ans pour des ados. Donc il y a bien une transmission qui est là. Et c'est dans ce sens que chacun est responsable de son frère et de sa sœur. On est responsable les uns des autres. On n'est pas là pour casser les uns les autres, on est là pour s'accompagner les uns les autres. On est responsable les uns les autres dans l'amour fraternel. Amen. Au boulot. Prions. Le Seigneur, tu places un grand défi devant nous qu'est l'Église. C'est pas toujours facile de concilier les plus jeunes et les moins jeunes, mais c'est ce travail que tu nous demandes de faire. Alors aide-nous à développer cette Église, cette communauté de la communion, de l'amour fraternel, Seigneur. Que chacun soit conscient de sa responsabilité, de son rôle dans l'Église. Qu'est-ce qui me manque pour avancer dans l'Église? Quel trait de caractère je dois changer radicalement en moi pour te refléter? Bien Seigneur, que nous ne manquions pas ce défi de l'Église. Que chacun puisse prendre sa place, son rôle, pour te glorifier et développer cette communion fraternelle. Et que chacun se sente à sa place. Que chacun puisse s'épanouir dans sa foi, dans son ministère, Seigneur. Et aide les responsables de l'Église, justement, à accompagner, à développer cette relation dans l'Église. Amen.